certain temps, comment dirais, à l'opacité ou à l'inertie de mes collègues, des professionnels. Mais enfin, le tour de manivelle se fait toujours par les associations, puisque pour d'autres, mes proches de vous, qui sont la COFAM, la Coordination Française pour l'Allaitement Maternel, où j'ai été embarqué à la suite de recommandations sur l'allaitement maternel, que dans mon passé de président du collège, j'ai eu l'honneur de présider la commission, enfin le collège et les recommandations. Donc nous avons obtenu, la COFAM a obtenu cette année un budget d'enseignement par la Direction Générale de la Santé pour faire un enseignement régional formation sur l'allaitement maternel. Donc nous avons une caution officielle. Et donc nous avons tourné en Aquitaine à Bordeaux, nous avons été à Rouen il y a 15 jours, nous ferons ça à Paris au mois de novembre, et puis ensuite ça continue en 2006. Et je suis l'obstétricien qui présente un balayage des pratiques obstétricales qui seraient plus propices, donc j'y ai mis tout ce que je vais vous dire ici en partie. Donc dans la conférence, comme elle dure une heure, il y a 60 diapos, j'en ai pris qu'une douzaine pour faire ici, parce qu'il y a des réflexions générales qui peuvent nous aider. Donc, alors, bien accoucher et bien-être, ou les soins efficaces pour l'accouchement, c'est un argument scientifique fort que je développe à droite et à gauche, car tout ce qu'on vous avait dit les uns et les autres, c'est souvent démontré avec un niveau scientifique de preuve, c'est-à-dire ça correspond aux exigences académiques et universitaires et professionnelles mondiales. Donc, il suffit de lire, il suffit d'appliquer, il suffit d'arrêter ce qui n'est pas bien, de faire ce qui est bien pour évoluer dans ces pratiques. Alors, l'accouchement et l'allaitement, il faut donc une politique périnatale. Périnatale favorable à l'allaitement se fonde sur un accueil respectueux des femmes enceintes et des nouveau-nés. Il faut réfléchir au bien fondé et à l'utilité des actes professionnels habituels et il convient de ne faire que des soins efficaces fondés sur des preuves. Lors des accouchements, il faut réduire les techniques à leur simple nécessité et donner confiance aux femmes. Cela est compatible avec la sécurité, favorise la relation mère-enfant et facilite la mise en route de l'allaitement. Alors ça a l'air d'être des euphémismes quand on parle à un public un peu conquis, mais quand vous dites ça dans un milieu professionnel, les gens vous écoutent, mais derrière, il faut. Alors on peut donc respecter la physiologie de l'accouchement. On peut laisser les femmes se bouger pendant le travail. On peut se retenir de les inonder de Saint-Ocinon. Oui, on ne s'était pas concerté avant. Et l'utiliser avec parcimonie, ne pas déclencher sans raison valable, ne utiliser des analgésies péridurales peu dosées à la demande des femmes. Jamais séparer la mère et son enfant. Non, en fait, on doit. Je crois qu'il faut insister là-dessus. Si c'est possible, c'est fondé, il faut le faire et ne rien faire d'autre. Alors, l'accouchement, c'est vrai qu'il faut expliquer aux accoucheurs et aux sages-femmes actuelles que c'est quand même un moment particulier, un moment unique qui n'appartient qu'aux femmes et que nous devrions mieux respecter. Il y a beaucoup de respect dans ce que je dis. La naissance doit être une expérience enrichissante pour les parents. La naissance est donc la séparation des corps maternels et fœtal et la transformation d'un espoir d'enfant, ce fameux enfant imaginaire, en un être humain qui doit être alors reconnu et investi par ses parents. L'accouchement et les suites de couches comportent des aspects psychologiques de grande importance pour la mère et les nouveau-nés et c'est pour ça qu'il faut respecter tout ça. Et donc la technicité doit s'intégrer dans une pratique obstétricale respectueuse des désirs et besoins de la patiente. Alors c'est un beau programme, c'est comme un programme électoral, il faut après que les gens vous soutiennent. La physiologie de l'accouchement et le confort de la femme en travail doivent être constamment respectés. La naissance doit être aussi douce, affectueuse et protectrice que possible pour le nouveau-né. Il faut respecter le processus d'attachement entre la mère et l'enfant. Et il y a deux choses qui sont fondamentales à la naissance, c'est l'échange des regards, le lever natal des yeux, comme dit M. Delassus, le père de la maternologie. Et si vous regardez attentivement les naissances quand elles se passent avec un peu de douceur, vous avez ce moment particulier que le pédopsychiatre, et je vous invite à lire la pédopsychiatrie sur l'attachement de l'enfant, en particulier une très grande mise au point par l'école de Bordeaux récente, là, monsieur Montpellier, ou Jolier, enfin, qui explique aussi ça, c'est qu'il y a une concentration particulière du nouveau-né à la naissance, qui a une charge hormonale et psychologique particulière qui le rend particulièrement attentif. En gros, c'est le moment de la vie où la charge en catécholamine est la plus importante de tout l'exercice, supérieure à l'exercice d'un effort physique aux Jeux Olympiques. Donc à ce moment-là, le petit, il lève les yeux, il regarde sa mère, il a des visages, il se l'imprime dans sa mémoire subconsciente. Et la maman regarde cet enfant. Et c'est ça le fil de la vie. Si vous interrompez ça, vous perturbez la situation. Les mamans qui ont des difficultés maternantes à l'origine, elles fuient ce regard. Et vous avez beaucoup d'exemples de collègues qui ont filmé, qui ont enregistré ce genre de trucs. Et il faut un travail après pour récupérer. C'est tout le travail de l'équipe de maternologie ou des services de pédopsychiatrie mère-enfant. Donc il y a cet échange de regards et puis il y a ensuite le contact cutané, le peau à peau. Ne pas faire le peau à peau, c'est vraiment s'immiscer dans l'intimité nécessaire de la reconnaissance de la mère et de son enfant. L'allaitement est donc, dans ce cas-là, la prolongation naturelle de la grossesse et le pot à pot permet au mieux la première tétée. Alors la surveillance qui est nécessaire pour la sécurité, et surveillance ça ne veut pas dire instrument, doit être discrète et respecter l'intimité entre le nouveau-né, sa mère et son père. C'est ainsi que les accouchements devraient se passer. Vous voyez, on met des conditionnels là. Alors les soins habituels sont-ils efficaces? Ça c'est une réflexion générale issue des pratiques de l'evidence-based medicine, donc cette théorie qui fait dire que les soins sont démontrés avec des niveaux de preuves scientifiques, et quand ils sont démontrés bien, il faut les faire, quand ils sont démontrés mal, il faut ne plus les faire. Donc les femmes qui reçoivent les soins, les professionnels qui les prodiguent, nous tous et ceux qui les paient, les autorités, ils veulent tous que les soins soient efficaces, ça paraît assez évident. Seulement, on s'aperçoit que les connaissances sont universelles. Quand vous lisez un livre de physiologie américain, anglais ou japonais, il décrit les mêmes phénomènes et tout le monde s'y retrouve. Sauf qu'à partir de ces connaissances universelles, la diversité des cultures, des habitudes et des objectifs a créé des pratiques fort diverses pour la prise en charge des grossesses et des accouchements. On n'accouche pas de la même manière. Traditionnellement, dans les sociétés qu'on a vues tout à l'heure, et les ethnologues le décrivent très bien, en France, en Angleterre, en Scandinavie, au Japon ou ailleurs, avec la même physiologie de la reproduction quand elle est bien structurée. On constate de curieuses différences des pratiques et des résultats entre pays ou institutions, comme l'usage du toucher vaginal, les positions d'accouchement ou les variations des taux de péridurale ou de césarienne. Donc à partir des mêmes données, on dévie. Et on dévie avec des phénomènes culturels. Alors c'est quoi les soins efficaces? Eh bien, ces soins efficaces sont des soins fondés sur des preuves scientifiques définies comme l'usage consciencieux, judicieux et explicite des meilleures preuves actuelles pour décider des soins des individus. Ces meilleures preuves sont issues d'études prospectives randomisées, on passe sur le détail technique, afin d'éliminer les biais et de leur donner une crédibilité. Ces preuves doivent être réunies pour aider ceux qui vont prodiguer et recevoir les soins, donc il ne faut pas les publier dans un coin, il faut après que des sociétés professionnelles ou des organismes les brassent sous forme de recueils, recommandations pour la pratique clinique. Alors pourquoi faut-il accoucher autrement que notre unique position gynécologique? Eh bien parce que l'accouchement, à mon sens, est un mécanisme trop complexe et subtil pour imposer une position unique et dogmatique. Parce qu'il faut intégrer les connaissances actuelles qu'on vous a développées tout à l'heure en imagerie dynamique, en biomécanique, en rééducation périnéale, pour mieux comprendre la mécanique obstétricale fine, l'intérêt de la mobilisation du bassin et apprendre à pousser efficacement. Et pour le fœtus, il faut tenir compte des connaissances récentes en ostéopathie, vous reconnaissez, en mécanique cervico-céphalique, en hémodynamique cérébrale, pour supprimer les manœuvres traditionnelles intempestives. Moi, j'ai été frappé par les schémas de Mme Rosine Dalloz, quand on voit ce qu'on fait subir au rachis cervical du petit sur certaines manœuvres et aux petites vertèbres, artères vertébrales qui circulent là-dedans, et on se dit, on comprend pourquoi de temps en temps, le tronc cérébral, il en prend un coup, dans un accouchement qui est professionnellement parfaitement conforme. Et le petit, il est assez handicapé parfois. Parce que le tort, c'est quand même pas ce qu'il y a de mieux. Alors il faut utiliser la mobilité, si vous ne l'avez pas encore compris, on va encore appuyer là-dessus, donc déambulation, changement de position, etc. Je vous rappelle qu'il y a quelques études qui montrent quand même que cette mobilité réduit les variétés postérieures qui sont source de dystocie lors de l'accouchement. Pour l'engagement, on l'a vu, il faut réduire l'hyperlordose en s'étirant et rapprocher les axes de poussée utérine, fœtale et le bassin, et la meilleure position pour l'accouchement, c'est donc la position accroupie. Pour la descente, il faut bouger les cuisses. On revient sur les arguments de Bernadette de Gasquet pour ouvrir le bassin dans sa partie inférieure. Et les efforts de poussée devraient se faire en expiration afin de verticaliser l'utérus et d'ouvrir le périnée. C'est pas tout à fait comme ça que ça s'apprend malheureusement dans les écoles de sage-femme et les services obstétriques. La femme doit conduire son travail dans les positions les plus confortables. L'accouchement en position gynécologique est néfaste et on l'a déjà dit. Les positions verticales et la déambulation sont utilisables pendant la dilatation. Et là, il m'est revenu un souvenir tout à l'heure en m'écoutant. Quand j'étais chef de clinique il y a plus de 25 ans, en 1978-80 à Baudeloc, je me souviens d'avoir fait un travail avec un collègue belge. À l'époque, on testait les premiers cardiotocographes radio-télécommandés, donc sans fil. Et donc, il y avait un travail qu'on menait pour faire une étude préliminaire de l'utilisation de la fiabilité de l'enregistrement pendant la mobilité des patientes, puisque grâce à ça, elles pouvaient ne pas être immobilisées. Et on arrivait à une conclusion tout à fait basique, d'abord que c'était aussi valable de qualité d'enregistrement de surveillance, et que les femmes ainsi pouvaient se déambuler pendant la première partie de la dilatation, et qu'en gros, vers 6-7 cm, elles préféraient être allongées sur la table, et elles revenaient dans la pièce où était la table d'accouchement qui servait à l'étude. D'ailleurs, on n'avait pas du tout à l'idée à l'époque d'avoir de pratique obstétricale, mais c'était simplement pour une réponse technique. Est-ce qu'il y a des moyens techniques d'assurer cette surveillance dont on pensait qu'elle était utile, qui n'obère pas la liberté de la femme, qui était encore institutionnalisée, mais pas aussi pesante qu'elle l'est devenue par la suite? La réponse était, il y a moyen d'avoir un enregistrement sans être attaché. Et parallèlement, on démontrait que les dames étaient très contentes de pouvoir déambuler jusqu'à un stade assez avancé de la dilatation, et qu'après, elles préféraient quand même être allongées, alors d'une manière ou d'une autre, sur la table d'accouchement, parce que c'était quand même plus pesant et plus pénible. Donc, vous voyez, il y a 25 ans, pour tout à fait autre chose, on avait déjà démontré, ce qui par la suite a été démontré, qu'on pouvait se déambuler pendant la dilatation, et que pour accoucher, on pouvait faire autrement. Alors c'est vrai qu'accoucher accroupi ou à quatre pattes est culturellement difficile en France, mais peut-être ce culturellement, il passe aussi par d'autres positions qui seront peut-être plus acceptables dans nos pudeurs ou dans nos pratiques. À partir du moment où on a fait de l'accouchement sur le côté en grande quantité à Villeneuve, il y a des accouchements en autre position, et il y a des accouchements à quatre pattes parce que la patiente s'est sentie bien pour le faire et que c'est ainsi qu'elle a fait naître son enfant, parce qu'on a aussi appris à respecter les positions et de se dire que finalement, si c'est comme ça qu'elle est bien, c'est comme ça qu'elle accouche, et point, pas d'autres questions. Accouchant des décubitus latéral, etc. Ça, c'est l'apport de Bernadette de Gasquet, donc on va passer. Alors, notre modeste expérience montre que la mobilité des femmes et l'accouchement des décubitus latéral et autres sont possibles dans une maternité française. La satisfaction des patientes est grande car l'accouchement est plus facile. Ça, c'est le témoignage des multipares qui ont accouché dans le service en position gynécologique et qui maintenant accouchent en position latérale ou en autre position. Les sages-femmes et les obstétriciens qui ont tous été formés après formation se sentent efficaces et utiles. Ils ont redécouvert deux choses. Un goût pour la mécanique obstétricale un peu plus sophistiquée que la mécanique ancienne, donc une grande attache à regarder. Je vous rappelle que les obstétriciens du 19e siècle, ils ont passé leur temps à regarder avant d'écrire ce qui se passait et qu'on a appris, nous, des choses qu'on ne regarde plus, sauf si on est un peu intéressé par l'obstétrique. Avec ces nouvelles pratiques, les sages-femmes du service et certains médecins du service font très attention au déroulement mécanique pour affiner l'enseignement de Bernadette de Gasquet, pour vérifier le périnée postérieur, antérieur, le dégagement en position latérale et des choses comme ça. Donc, ils se sont remis un goût tout d'un coup qui est de développer la connaissance à travers sa propre pratique. Faire un premier accouchement sur le côté, c'est une révélation qui est assez enthousiasmante pour les sages-femmes. Alors, je mets un bémol dans un service qui est ouvert sur l'affaire. Tout d'un coup, elles se sentent convaincues que c'est sympa. Et les résultats sont intéressants, on va en dire deux mots tout à l'heure. Alors là, je vais faire une diapo qui fait un détour. Ce qu'on appelle la direction du travail dans notre jargon, c'est l'usage trop largement répandu du Saint-Ossinon et de la rupture des membranes, tout venant. Ça a été au départ issu d'une réflexion sur le taux de césarienne pendant le travail qui était excessif et pouvait-on le réduire en utilisant le moyen de la direction du travail. Cette idée qui était en l'air parce que M. Lacombe, en 1960, l'avait lancée en France sur d'autres arguments, avait été reprise par l'école de Dublin, qui est une grande école obstétricale, avec des publications sur le management of labor. Et c'est vrai que leur pratique, elle était intéressante. Sauf que, comme toujours, les études ne sont pas bien lues. Car quand on regarde les 8 points de la technique de Dublin, c'était une définition du travail exigeante. Ça se concernait que les primipares et pas Madame Tout-le-Monde. Ça déterminait qu'à partir du moment où la femme était en travail, elle était mise en salle de naissance et qu'elle était surveillée et que les membranes étaient rompues. C'est le premier truc, membranes rompues dès l'admission, qu'elle arrive à 1 cm ou à 4 ou à 6 cm. Qu'ensuite, on mettait du Saint-Ossinon que si la dilatation ne progressait pas harmonieusement. Et il se trouve que dans ce cas, il y avait moins de 50% des patientes qui avaient du Saint-Ossinon. Et point suivant, il y avait un accompagnement permanent d'une patiente par une élève sage-femme exclusive de l'arrivée jusqu'à la naissance. On a oublié l'accompagnement tout de suite, on a mis le Saint-O tout de suite après la rupture, et on a fait plein d'études qui sont arrivées glorieusement à ce que la direction du travail réduite à rupture plus ocytocine ne permet pas de réduire le taux de césarienne, avec presque une tendance à l'augmenter, presque. Que c'est bien sûr contraignant pour les patientes, parce que là, par définition, vous avez les tubulures et les capteurs dès le début, parce que c'est la règle du jeu. Donc la direction du travail systématique doit être abandonnée, c'est une position perverse, inutile, qui ne réduit pas le taux de césarienne. Donc l'objectif est n'étant pas démontré, si on est rigoureux intellectuellement, on ne fait plus ce qui n'est pas utile. Point. Ça reste le traitement des dystocies, c'est-à-dire 15% des patientes qui vont présenter des anomalies de progression du travail, même si on intègre les positions pour lesquelles il va falloir trouver des solutions, si ce n'est pas d'accepter une césarienne tout de suite. Donc c'est le traitement d'une pathologie pendant le travail, c'est pas une pratique qui peut être utile, étendue à tout le monde, si ce n'est que c'est délétère. Il faut donc préparer les patientes à accoucher, les accompagner pendant le travail. On revient à la source. Alors, comment changer les naissances? Eh bien, respecter le désir des femmes au moyen d'une information claire et nette sur l'accouchement, sur les pratiques de l'accouchement, sur ce qu'on peut faire. Et je vous rappelle que très normalement, d'après tous les textes et recommandations professionnelles, toute patiente qui arrive ou qui s'inscrit dans une maternité devrait recevoir un livret d'informations qui n'est pas que limitatif aux pratiques, le téléphone, les urgences, les modalités de rendez-vous et les papiers à fournir lors de l'arrivée pour l'accouchement, mais sur les pratiques qui se proposent. C'est les pratiques en cours, l'organisation des cours de préparation, l'information anesthésie, le bazar, tout, l'accueil du nouveau-né, l'allaitement, enfin tout. Tout ça devrait être fait. C'est rarement fait, c'est rarement fait dans le détail. On a essayé d'avancer un peu dans le service, que toute femme qui s'inscrit reçoit une lettre d'information générale sur la maternité, une feuille d'information sur pratique de l'accouchement, position, les positions possibles, les positions conseillées, les positions qu'elle peut rencontrer, et sur l'accueil du nouveau-né, la politique de l'allaitement. On a réfléchi sur cette lettre d'information au départ parce que on voulait informer les patientes, on va dire tout venant, qui ne se posaient pas de questions, pour qu'elles ne soient pas surprises, qu'on puisse leur proposer de faire autre chose que ce qu'elles pouvaient attendre. C'est-à-dire, si vous tout va bien, on vous proposera peut-être d'attendre, de vous promener, de jouer avec les ballons et pas d'être tout de suite techniqué. À l'opposé, les patientes informées sur la liberté de position ou sur les autres positions, les rassurer tout de suite en disant, ici, vous pouvez avoir un dialogue et on pourra accepter à vos demandes, puisqu'on s'est formé et on s'est fait dans cette affaire. Donc, il y a une telle feuille d'information. Respecter la physiologie de l'accouchement, c'est vrai que pour celles qui viennent dans le service, elles trouveront qu'on n'est pas aussi top qu'on le dit, mais comme toujours, il y a un décalage, il faut regarder les chiffres en détail, on respecte peut-être moins qu'on le dit, on a toujours des réflexes hospitaliers, mais il faut bien commencer progressivement à se déshabiller, et c'est vrai que quand même, la consommation de Saint-Ossinon, pour vous donner un exemple, a été réduite par 3, alors que le nombre d'accouchements, il a toujours monté depuis 5 ans. Ça veut dire que par patiente, on en fait beaucoup moins. Alors, c'est pas ça qui grève le budget parce que ça coûte pas cher. Peut-être que si le Saint-O coûtait très cher, ça aiderait à ce qu'on pratique et on l'utilise beaucoup moins, comme les prostaglandines. Enfin, n'appliquer que des soins efficaces appropriés, la déambulation, le choix des positions, la rupture et le cytocine uniquement s'il dystocie, réduire l'usage de l'épisiotomie, laisser le nouveau-né avec sa mère, promouvoir l'allaitement maternel et surtout évaluer ses pratiques et ses résultats. Car comme je le disais tout à l'heure, quand on n'évalue rien, on ne sait rien. On fait des choses, mais si vous dites au jour d'aujourd'hui à plusieurs de mes collègues, aujourd'hui dans votre service, qu'est-ce que vous faites? Vous en êtes où au taux de césarienne, d'épisiotomie, de machin et de n'importe quoi? Ils en s'affichent trop rien, sauf à la lenteur administrative à travers le PMSI, les enquêtes machin. Vous savez qu'on a eu les résultats de l'enquête Bréard périnatalité 2003 cette année, donc 2 ans à l'époque d'Internet, quand vous savez tout des coulisses de la Maison Blanche, c'est quand même pas très performant. Et je vous dis pas la facture que coûte une enquête Bréard. Bon, passons. Quand on a un service informatique comme le nôtre, on a publié le 5 janvier 2005 les statistiques annuelles 2004, complètes, totales, parce qu'en plus, la sage-femme motivée a tout exploité, un demi-poste de sage-femme pour faire ça, et que ça vous aide justement, avec quelques chiffres que je ne vais pas vous saouler, mais qu'on en verra quelques-uns, pour vous montrer que quand on se penche et qu'on voit la satisfaction, la réduction du taux d'épisiotomie, l'augmentation du taux d'allaitement, bah, c'est bon pour le moral. Ça entretient le fait que si on a bougé, c'est utile et ça montre des paramètres qui sont réconfortants. Alors, à l'heure actuelle, naître à Villeneuve en 2005, c'est une préparation qui est loin d'être parfaite pour des raisons d'effectifs, mais qui quand même persiste à travers les difficultés, en ayant associé par exemple des sages-femmes libérales avec un contrat d'ouverture au plateau technique qui viennent faire de la préparation. Donc, préparation sur les positions de l'accouchement, parce que tout le monde est formé, y compris les sages-femmes contractuelles qui bénéficient des formations globales pour faire une formation d'équipe. Déambulation et position en début de travail, analgésie péridurale à la demande, accouchement décubitus latéral, près de 20% des naissances maintenant, peau à peau immédiat du nouveau-né, les soins du nouveau-né sont reportés à H2 pour respecter la période initiale de contact du nouveau-né, quand il n'y a pas de problème bien sûr, allaitement à la demande dès la naissance et cohabitation mère-enfant en maternité. Alors nous avons pris dans ces objectifs qui étaient décrits depuis 2002, donc quand on a instauré toutes ces politiques et les formations qui en déclinaient. Alors supprimer les perfusions inutiles lors du rail spontané, j'ai pas de chiffres à vous donner, c'est sûrement moins bien qu'on le dit, mais c'est sûrement plus tardif qu'on le faisait auparavant. Laisser les femmes déambuler choisir leur position, ça c'est clair, que vous vous promenez dans le bloc d'obstétrique et vous rencontrez des femmes qui se promènent dans le couloir, qui s'appuient sur les barres d'appui, ou dans les chambres de pré-travail. Les ballons qu'on avait achetés au départ, eh bien, ils sont utilisés. Le seul problème, c'est d'avoir les pompes pour les gonfler de temps en temps, parce qu'ils se dégonflent à force d'être sous les dames. accompagner les femmes en travail le plus possible. Ça, je peux vous donner une réflexion de quelques sages-femmes récemment et d'un des médecins qui travaille beaucoup là-dessus. C'est d'avoir constaté qu'elles étaient beaucoup plus proches des femmes, puisque cette adaptation des positions pendant le travail ne ressortait que d'un dialogue et d'un accompagnement plus présent. Alors, elles ne sont pas toujours là parce qu'il y a beaucoup de travail, mais c'est sûr que, autant jadis, longé sur le dos avec une perfusion et une péridurale, on pouvait prendre le thé à côté. Maintenant, quand il faut être un peu plus présent parce qu'on se sent plus acteur, participant, conseiller, accompagnant, eh ben, on vient plus souvent pour vérifier si ça va, si la position est bien, si on est confortablement installé, si on veut changer de position. Donc elles reconnaissent qu'elles sont plus présentes qu'elles l'étaient il y a quelques années. Faire les péridurales à la demande, on est en train d'essayer de le démontrer, mais on a le sentiment, on en fait un peu moins, on est passé de 79 à 74, c'est pas beaucoup mais c'est significatif, mais on pense qu'on les fait plus tard à la demande des patientes, donc sur une durée par rapport à la durée totale du travail qui est raccourcie. Utiliser rupture et ocytocine qu'en cas de dystocie avérée, ça se tend. Et alors voilà les résultats sur l'épisiotomie, nous étions 47% en 2002, on est à 33% en 2004. Les césariennes, on n'a pas beaucoup bougé, parce que 16-2, on est à 17-7, césariennes totales, donc c'est quand même un centre périnatal de niveau 2 qui reçoit des pathologies. Les césariennes pendant le travail, on est toujours resté à 10%, 9-9 à 10,1. On a parallèlement 10% d'extraction instrumentale, donc on a toujours 80% d'accouchement spontané. Allaitement maternel, on est passé de 65% à 77%, c'est l'allaitement maternel à la sortie de la maternité. Et l'évaluation par les patientes, eh bien, elle est en cours parce que pour l'instant, on a un questionnaire un peu classique qui est fait à la sortie de maternité. On essaye de mettre en place dans les années qui viennent un questionnaire envoyé par la poste et ciblé sur les pratiques périnatales 2 mois après la naissance pour qu'on puisse passer après les moments émotionnels de l'hospitalisation. Alors en conclusion, même quand on est dans une maternité, on peut changer les naissances, prendre en charge différemment les grossesses normales. On peut modifier nos pratiques et n'appliquer que des soins efficaces, mais il faut se bouger. On peut se mobiliser pendant le travail et accoucher autrement. On peut se soucier de l'accueil des nouveau-nés et favoriser l'allaitement maternel. On peut former, encadrer et rassurer les personnels. Former, encadrer, je peux vous dire que c'est fondamental. L'ensemble du service de maternité, une partie du service de natalogie a été formée dans les pratiques accueil du nouveau-né et allaitement. Donc on a mangé une grosse part de la formation professionnelle de l'hôpital. On a fait passer tout le service, médecins compris. Ça fait 6 groupes de 15 personnes sur 1 an et demi. Les pratiques avec Mme de Gasquet, on a fait 2 cours d'initiation en 2002-2003. On a fait un cours de rappel pour ceux qui étaient déjà formés cette année. On fait un troisième groupe cet hiver pour les nouvelles sages-femmes et ceux qui ne sont pas encore formés. Il faut continuellement faire la formation. En matière d'allaitement, on a un peu d'avance. On va refaire tous les 2 ans un cycle de formation pour le nouveau personnel ou le personnel qui ne serait pas suffisamment efficace, entre guillemets, de manière à réactualiser continuellement les pratiques et les connaissances, et rassurer les personnels, et puis il faut assurer parallèlement un encadrement efficace avec des cadres motivés qui permettent effectivement d'entraîner le personnel, de repérer sa capacité de réagir aux situations des pratiques qu'on a acceptées et définies. Évaluer nos actions, ben ça c'est notre dossier informatique qui nous permet de sortir nos chiffres, de répondre, et puis de faire avec des élèves sages-femmes motivés un certain nombre de mémoires qui sont en cours, avec des chiffres et des statistiques qui permettent donc de dire que ce qu'on fait, c'est pas dénué d'inconvénients, il y a quelques avantages. Questionnaire d'opinion, on en a parlé, donc vous voyez, sans cesse sur le métier, remettez votre ouvrage, c'est tout ce qu'il faut faire en obstétrique comme ailleurs, si on veut rester performant, en n'oubliant pas une chose, on travaille pas pour nous, on travaille pour les patientes, on travaille pour les femmes enceintes, on travaille pour les bébés, pour l'avenir de la société, donc il faudrait qu'on ait ça en tête, est-ce que ce qu'on fait, on est bien, est-ce que ça leur plaît, est-ce que ça leur convient, et on peut avoir une réponse individuelle, on peut avoir une réponse santé publique, on peut avoir une réponse professionnelle. Mais faut-il encore avoir l'audace ou le courage de se poser la dite question, ce qui n'est pas la plus répandue dans les milieux professionnels que je fréquente. Voilà.